Quel est l'état actuel des relations russo-chinoises? Que veut dire la neutralité pro-russe de Pékin et que valent les plans de paix chinois? Quelle est la stratégie de la Chine dans la guerre russe contre l'Ukraine? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Pierre Andreu, diplomate, ancien ambassadeur de France au Tadjikistan et en Moldavie, spécialiste de la Russie et de la Chine, auteur de l'ouvrage « Géopolitique des relations russo-chinoises ». Bonjour Pierre Andreu, merci tout d'abord pour avoir accepté notre invitation pour le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On vous connaît comme diplomate, comme ambassadeur de France dans les pays différents, tout d'abord au Tadjikistan, mais aussi en Moldavie. Vous êtes aussi spécialiste de la Russie et des relations sino-russes. Et vous avez publié l'année dernière chez Presse universitaire de France « Géopolitique des relations russo-chinoises ». Donc notre conversation aujourd'hui, elle va porter justement sur ces relations russo-chinoises et justement sur l'impact que la guerre russe contre l'Ukraine a eu sur cette relation et donc du rôle de Chine aussi que la Chine pouvait jouer dans cette guerre qui dure malheureusement trop longtemps. Donc ma première question à vous serait, donc vous décrivez dans votre livre très longuement, suffisamment longuement l'histoire, vous parlez de relations russo-chinoises pendant des siècles, donc à partir dans l'histoire, mais ma première question à vous serait comment peut-on décrire les relations entre la Chine et la Russie aujourd'hui? Peut-on parler de cette alliance stratégique ou plutôt de l'entente de circonstances, les deux termes que vous employez dans votre ouvrage?
Je dirais que ce sont des relations assez complexes qui sont basées évidemment sur le passé et qui, comme le passé était quand même, il y a eu beaucoup de contradictions, beaucoup d'ignorance et beaucoup de méfiance entre les deux pays. Les relations ne sont pas simples. En fait, vous savez que les relations ont commencé au XVIIe siècle en réalité, XVIIIe, et puis très vite la Russie, l'Empire russe, qui était un empire colonial, n'est-ce pas, a annexé beaucoup de territoires chinois, alors que la Chine, à l'époque, au XIXe siècle, début du XXe siècle, était atteint un empire affaibli. Et donc, après la révolution bolchevique, les bolcheviques, évidemment, ont dit soutenir la révolution chinoise et le mouvement national chinois, mais ils n'ont pas rendu ces territoires. Enfin, je le décris bien dans mon livre. Et donc, c'est important de le savoir, pour bien comprendre que les relations ne sont pas justement sont toujours empreintes de cette défiance historique. Et mais également les relations dans les années 50, 60, 70 ou lorsque l'URSS était puissante, c'était le grand frère soviétique qui aidait la Chine, mais les rapports et les termes entre les deux pays se sont inversés avec après la mort de Mao Tse-tung, l'arrivée des autres dirigeants chinois. Et puis à Moscou de Gorbatchev, etc. Et les deux pays ont décidé de reprendre des relations, je dirais, normales, notamment dans le domaine commercial, économique et politique commerciale. Et à partir de Yeltsin et puis Poutine surtout, la Russie a opéré ce qu'on a appelé le tournant vers l'Est, et en fait, surtout vers la Chine. Ce tournant vers l'Est a été considérablement renforcé, évidemment, après la crise du Maïdan, la première crise ukrainienne, lorsque la Russie a annexé la Crimée et a soutenu les mouvements séparatistes dans le Donbass. et parce que avec les désaccords occidentaux et surtout les décisions les punitions, les sanctions prises par l'Occident, notamment dans le domaine économique et commercial, la Russie n'a eu d'autre choix que de se tourner vers la Chine. Voilà. La Russie ne pouvait plus vendre son pétrole, ni son gaz, ni etc. Donc les sanctions ont obligé les Russes à se tourner vers les Chinois. Sauf qu'évidemment, s'agissant du gaz par exemple, les Russes ne pouvaient pas vendre autant de gaz, ou la totalité du gaz qu'ils vendaient à l'Europe, du fait de l'absence de pipeline, de tuyaux pouvant amener ce gaz. De plus, les Chinois, la Chine qui est devenue une grande puissance, la deuxième puissance mondiale, ont su imposer leurs conditions de vente à la Russie. Et du coup, la Russie, peu à peu, est devenue une sorte de junior partner de la Chine.
Oui, tout à fait. Donc économiquement, donc la Russie, on ne peut pas comparer aujourd'hui la Russie qui est très affaiblie, relativement affaiblie par la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, et la Chine qui continue. Mais à la fois, donc, on comprend que la Chine, elle essaie de jouer, donc on parle de ce miracle chinois depuis des décennies déjà, on parle de ce commerce florissant que la Chine a avec les États-Unis, mais tout aussi bien avec l'Union européenne. Donc la Russie ne constitue qu'un volet, en fait, qu'une direction stratégique pour la Chine. Et donc, la Chine devrait prendre en considération aussi des réactions du monde continental par rapport à cette agression. Vous décrivez dans votre livre, en fait, ce moment important de février 2022, notamment le 4 février 2022, le moment où, en fait, les deux pays, Chine et la Russie, signent cette déclaration commune sur ce qu'ils appellent une nouvelle ère dans leur relation, sans préciser qu'est-ce que c'est une nouvelle ère, le développement global et durable. Et donc, mais en même temps, on sait très bien que, qu'on vous décrivait aussi dans votre livre, c'est que Poutine n'a pas prévenu en fait le leader chinois que l'agression était imminente et que c'était vraiment une affaire de quelques semaines de commencer son agression. Donc la Chine n'a pas pu même évacuer les résidents chinois qui étaient assez nombreux. En Ukraine notamment, il y en avait beaucoup, des milliers d'étudiants chinois qui n'étaient pas prévenus de cette agression-là. Quel était le but en fait de cette déclaration signée la veille en fait de ce grand changement global commencé par la Russie?
Eh bien, le but c'était de réaffirmer les bonnes relations et le rapprochement entre la Chine et la Russie. En effet, comme je l'écris, il ne semble pas que Poutine ait prévenu Xi Jinping de son agression, ou en tout cas qu'il l'ait prévenu de l'ampleur de celle-ci. Je pense que les Chinois, comme beaucoup, pensaient qu'il s'agirait d'une affaire qui serait rapidement réglée, que les Russes, l'armée russe prendrait Kiev, etc., occuperait l'Ukraine. Ça ne s'est pas passé comme ça. Grâce à la résistance du peuple ukrainien était forte. Et je pense que les Chinois ont été tout à fait étonnés, et c'était, je dirais, entre guillemets, une mauvaise surprise pour eux.
Oui, véritablement une mauvaise surprise à votre avis.
Oui, c'est ça, parce que, c'est vrai qu'en même temps, avec cette attaque, les Chinois ont perdu en Ukraine quand même un interlocuteur et un partenaire économique qui était très, très important. Comme je l'écris quand même, les relations économiques étaient très bonnes. Les relations politiques, ça allait plus ou moins, mais les relations économiques étaient très bonnes. Et dans les débuts des années 2020, je crois que la Chine est devenue pour l'Ukraine le premier partenaire économique et commercial, même avant la Russie. Et tout ça, ça a été mis par terre par cette invasion. L'Ukraine fournissait quand même du blé, fournissait du matériel, fournissait notamment du matériel militaire. Je rappelle que la coque du premier porte-avions chinois a été fabriquée en Ukraine. Voilà. Et donc, mais évidemment. Avec cette attaque, les Chinois ont été obligés de choisir, et ils ont choisi la Russie pour des raisons géopolitiques et géoéconomiques. Géopolitiques parce que la Russie est quand même un allié. La Russie et la Chine ont un même adversaire, c'est la Chine, les États-Unis et l'Occident d'une manière générale. Et la Chine a besoin de la Russie pour continuer à être approvisionnée en pétrole, en gaz, en ressources minérales, etc. Oui, et en plus, ces échanges se font le long de leur très très longue frontière commune, et non pas par les voies maritimes, qui sont évidemment les voies maritimes étant sous la menace éventuelle des États-Unis s'il y a une crise. Et ça, c'est important du point de vue géostratégique et géopolitique. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de passifs qui existent entre la Chine et la Russie. C'est pour ça que souvent on parle d'alliance sino-russe. Moi, de mon point de vue, ce n'est pas une alliance, parce que d'abord, il n'existe pas de texte qui prévoit une alliance en bonne et due forme. Vous savez, un peu un texte qui oblige les deux partenaires à intervenir en cas de danger. En fait, il s'agit de relations qui sont tout à fait basées sur la géopolitique traditionnelle, enfin la réelle politique. Et les relations laissent donc cette absence d'alliance permet à chacun des protagonistes de reprendre entre guillemets sa liberté et d'aller à côté, quoi.
Oui, mais ce que vous décrivez en fait dans ce concept de neutralité pro-russe, voilà, donc la position pro-russe, voilà.
Voilà, neutralité pro-russe, parce que tout à fait, parce que les Chinois, dans le même temps, c'est devenu quand même la deuxième puissance du monde, souhaitent jouer un rôle diplomatique à la hauteur de cette puissance. Ils se sont engagés, comme vous le savez, sur plusieurs scènes, en réussissant à rapprocher l'Iran et l'Arabie Saoudite, par exemple. Ils essaient de jouer un rôle au Moyen-Orient. Et ils ont essayé de faire la même chose en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont signé un espèce de document, ils ont édité un espèce de document qui était présenté comme un plan de paix, mais qui n'est absolument pas un plan de paix, mais qui est un document qui rappelle les grands principes du droit international que la Russie viole allègrement, du reste. Ils ont nommé un représentant d'ambassadeur pour la paix en Ukraine, je ne sais pas comment ils appellent ça exactement, pour la crise en Ukraine, qui est Li Hui, qui a fait une première tournée à Moscou et en Occident. Alors je ne sais plus s'il était. Oui, il a été reçu à Kiev, je crois. Et voilà, et qui a présenté donc aux plus hauts dirigeants ce plan chinois. Mais les dirigeants étrangers ont vu qu'il n'y avait en réalité rien du tout, que tout ça c'était un peu de la fumée. Et lors de sa deuxième tournée, M. Li Hui n'a été reçu qu'à des niveaux subalternes, non plus par les grands dirigeants. Donc les dirigeants mondiaux voient bien que, en effet, c'est une sorte de neutralité, mais qui est pro-russe.
Voilà, mais au fond, on se pose toujours la question, quel est l'objectif de la Chine dans cette guerre, puisque vous avez mentionné vous-même ce fait historique que la Chine pourrait avoir des prétentions pour des territoires que la Russie avait annexés il y a beaucoup de temps, en fait, et donc pourrait profiter aussi de quelque sorte de fait de l'affaiblissement de la Russie pour revenir. Nous avons vu d'ailleurs voilà, les cartes chinoise où en fait il marque, il retourne, il mentionne les noms chinois des villes qui sont russes actuellement, mais voilà, donc pourquoi pas laisser la Russie tomber véritablement pour profiter de cette défaite militaire et puis de redessiner le monde sans la Russie.
Eh bien parce que les Chinois sont très pragmatiques. Ils voient bien que ils n'ont pas. Alors d'abord, les revendications territoriales de la Chine par rapport à la Russie, pour le moment, elles ont été mises sous le boisseau. Ce qui n'empêche pas de temps en temps, de rappeler. C'est une affaire qui est profondément ancrée dans la mémoire du peuple chinois. Les Chinois ne l'oublient pas, de même que pour les autres territoires. Mais pour le moment, les Chinois sont plutôt concentrés sur Taïwan et les mers du Sud. Donc ils ont besoin d'une certaine tranquillité sur la frontière nord et sur la frontière ouest avec l'Asie centrale, qui est très grande, etc. Donc pour le moment, les Chinois ont choisi de ne pas mettre en avant ces revendications. Deuxièmement, comme je disais tout à l'heure, la Chine continue de profiter des livraisons de produits énergétiques russes à bas prix, puisque les Chinois ont réussi à faire baisser les prix par rapport au prix qui était pratiqué en Europe. Donc le pétrole, la Russie est devenue le premier ou le deuxième fournisseur de pétrole de la Chine. Le gaz, c'est un peu moins, mais enfin, le gaz continue à être livré aussi bien par le tube qui existe que par bateau. Voilà. Et les Chinois, pour le moment, étant donné, donc, comme je le disais, ils sont plutôt occupés vers le sud, n'ont pas intérêt à une déstabilisation de la Russie, ils n'ont pas intérêt à une déstabilisation de Poutine, du pouvoir de Poutine. Dans le même temps, la guerre, en réalité, ils sont très cyniques, ils sont très pragmatiques et en même temps très cyniques. Les Chinois ont certains intérêts à voir les Occidentaux et les États-Unis occupés par la guerre en Ukraine, parce que pour eux, dans leur calcul, c'est autant de moins de forces qui seront envoyées ou consacrées à l'Asie orientale. Autant de moins de forces qui seront consacrées à Taïwan, au cas où quelque chose se passe à Taïwan. Voilà, donc ils sont très pragmatiques. Et alors, ils ont leur intérêt est de voir la Russie actuelle ne pas être très forte, mais en même temps de ne pas s'écrouler complètement. Parce qu'en plus de ça, les Chinois ne veulent absolument pas voir à leurs frontières l'anarchie. Vous voyez, dans frontières en Sibérie, en Asie centrale, en Extrême-Orient russe, les Chinois n'ont pas intérêt, ils craignent comme la peste de voir une situation anarchique s'installer à leurs frontières nord.
Et à la fois, ils regardent aussi la réaction de l'Occident, tout d'abord des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne par rapport à cette agression, donc parce qu'il y a aussi ce dossier Taïwan qui est important en Chine, et donc on sait que cette guerre et l'issue de cette guerre et la réaction du monde occidental par rapport à cette guerre pourraient servir de l'exemple. Comment est-ce que le monde occidental pourrait réagir en cas de l'intervention militaire contre Taïwan? Donc, essayer de voir. Et donc, quelles leçons, à votre avis, ils ont tirées de ce qu'ils ont vu, de cette réaction occidentale, justement?
Vous avez tout à fait raison. Ils analysent de très près, d'une part, le comportement des forces russes. Ils analysent les difficultés que la Russie a eues au début et les difficultés qui continuent à venir. Ils analysent, ils ont pris note de l'unité de l'Occident, de l'unité de l'Union européenne face à l'agression russe. Contrairement à ce que espérait Poutine, il n'y a pas eu, globalement, de division au sein de l'Union européenne. L'Union européenne est restée unie face à cette agression. Ils ont vu que des pays anciennement neutres ou non alignés comme la Finlande et la Suède ont décidé d'adhérer à l'OTAN. Et ça, ils ont vu que l'unité s'est renforcée, et ils analysent également, en effet, la réaction et le soutien, ou un peu le manque de soutien de la part des États-Unis. Tout ça, c'est regardé à la loupe. Et puis les opérations militaires, bien entendu, sont analysées à la loupe. La différence quand même entre, je dirais, le front ukrainien et un éventuel front taïwanais, c'est que les Chinois, s'ils décidaient d'entreprendre une opération militaire contre Taïwan, ils auront quand même plusieurs kilomètres de mer à traverser. Et là, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Ils sentent qu'ils ne sont pas prêts. Voilà, donc tout ça, c'est analysé. Et évidemment, il y a un retour d'expérience.
Ce qui est très inquiétant, pour vu de l'Ukraine en tout cas, dans cette neutralité pro-russe, comme vous la décrivez, c'est quand même le fait qu'on voit de plus en plus que la Chine, elle continue à livrer en Russie, pas des armements bien sûr, mais des composantes des armements, et que ce ne passe pas inaperçu dans le monde occidental. De temps en temps, on voit des déclarations qui nous proviennent des États-Unis, comme quoi des sanctions même pourraient être impliquées contre certaines compagnies chinoises pour le faire. Donc, il ne s'agit pas de cette neutralité-là où on parle du gaz, du pétrole, tout simplement, et puis des échanges des produits pacifiques, mais il s'agit justement du fait que la Chine, elle continue, à livrer à la Russie des composantes nécessaires pour que cette guerre continue à durer. Donc, voilà, pourquoi la Chine prend-elle ce risque, en fait, que de soutenir d'une manière plus explicite, en fait, la Russie dans cette agression ?
La Chine, en effet, continue ses échanges commerciaux avec la Russie. Elle a doublé elle a repris en réalité dans beaucoup de secteurs la place qui était occupée par les Occidentaux et que les Occidentaux ont libérée, ont laissée libre à la suite des sanctions. Par exemple, tout ce qui est automobile, les marques chinoises occupent maintenant la première place sur le marché automobile russe. La Chine est devenue le premier exportateur d'automobiles grâce au marché russe. Et du reste, un certain nombre d'automobiles sont évidemment utilisés par l'armée russe dans leurs opérations. Il paraît-il qu'il s'agit de petits véhicules, enfin, c'est quand même. Et puis, tout ce qui est produit de grande consommation, qui comporte en effet des éléments électroniques qui peuvent être utilisés par la Russie pour dans le renforcement de son matériel militaire. Et puis en effet, la Chine, et ça a été dénoncé par l'Occident et les États-Unis, la Chine fournit ou fournirait un certain nombre de chips à la Russie. Enfin, tout ça, tout ce commerce civil et non civil, du reste, sert directement, en effet, au renforcement du VPK, enfin du complexe militaro-industriel russe. Les Américains, en effet, regardent tout ça à la loupe également, et ils ont à plusieurs reprises prévenu et même dit, oui, les Chinois livrent directement du matériel militaire. Ça n'a pas été prouvé pour le moment. Donc, ça veut dire tout simplement que l'Occident et les États-Unis restent extrêmement vigilants. Et ont menacé en effet la Chine de prendre des sanctions secondaires contre les entreprises chinoises et même contre les banques chinoises qui continueraient ces genres de transactions. Et du reste, un certain nombre de banques chinoises et turques d'ailleurs ont arrêté toute transaction, je crois, avec les banques russes. Donc ça commence à avoir un effet. Mais les Chinois craignent beaucoup les sanctions secondaires, mais ce qu'ils craignent de plus, c'est, je pense, qu'ils soient privés de l'accès au marché américain et au marché européen, ce qui les freine un peu dans leur soutien à la Russie. Je vous dis, les Chinois sont des gens extrêmement pragmatiques, qui sont absolument dénués de toute idéologie, entre guillemets, à part évidemment l'opposition à ce qu'ils appellent l'idéologie libérale, enfin, etc. Donc voilà, et ce qu'ils craignent de plus, c'est ne plus avoir accès au marché européen, notamment. C'est pour ça qu'ils continuent leurs efforts dans le Belt and Road Initiative à travers les pays d'Asie centrale, et ils continuent les investissements là-dedans. Voilà. Donc ils sont entre les deux positions. Oui, un certain soutien à la Russie, un soutien pragmatique, qui n'est absolument pas celui d'un allié idéologique, etc., comme peut l'être l'OTAN, par exemple, mais volonté d'avoir des relations normales, et notamment commerciales, économiques et commerciales avec l'Occident.
Et l'Occident, de sa part, elle a tout intérêt que la Chine reste dans ce dialogue. Nous avons vu Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui va se rendre très bientôt en Chine, justement pour insister que la Chine soit présente à ce qu'on appelle le sommet de la paix qui va avoir lieu en Suisse ce juin 2024. Donc, on comprend que voilà, le monde occidental, les États-Unis et l'Union européenne a l'intérêt que la Chine soit, je dirais pas sur la même page, c'est impossible, mais en tout cas qui va être être à côté des Occidentaux pour essayer de limiter l'agression russe contre l'Ukraine. Est-ce qu'à votre avis, voilà, cette main tendue à la Chine, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que justement le leader chinois prendra la décision de se rendre à Genève, en Suisse?
Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. C'est quand cette... Oui, j'ai vu qu'il y avait un projet de conférence.
C'est au mois de juin.
Un projet de conférence en Suisse sur la paix, sur le règlement du conflit ukrainien, mais sans la Russie. D'ailleurs, Poutine, hier ou avant-hier, a dit que de toute façon, ça ne marchera pas. Enfin bref. Mais Olaf Scholz se rend à Pékin. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend à Pékin. Il se rend à Pékin, à mon avis, surtout pour assurer, pour conserver les exportations allemandes en Chine. C'est bon. Je pense que le conflit ukrainien n'est pas vraiment au-dessus de, à mon avis, hein, au-dessus de ces entretiens avec les Chinois. Voilà. Alors, les Chinois, est-ce qu'ils vont se rendre? Ça, c'est la grande question. Ils estiment avoir proposé leur plan, qui n'est, comme je le dis tout à l'heure, qui n'est pas un plan, mais tout simplement une sorte de document de rappel des grands principes des droits internationaux qui sont évidemment bafoués par son corps religionnaire russe. D'ailleurs, Xi Jinping doit faire une, je crois au mois de mai, une tournée en Europe où il se rendra en France. Hein, il se rendra en France pour fêter le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et là aussi, c'était la question, bien entendu, ukrainienne sera évoqué. Je crois comprendre que c'est une des questions pour la France qui sera mise en avant face à Xi Jinping. Mais à mon avis, les Chinois vont tant qu'ils ont ce genre de relations que j'ai décrites tout à l'heure avec la Russie, tant qu'ils à mon avis, ils vont pas bouger sur l'affaire ukrainienne, malheureusement. Ils vont pas bouger, il faut pas trop se faire d'illusions. Encore une fois, et c'est triste et c'est triste à dire et c'est très cynique. Les Chinois ont un certain intérêt à voir le conflit se poursuivre. Ils n'ont pas intérêt à une victoire totale de la Russie, mais ils n'ont pas intérêt non plus à un écrasement de la Russie en Ukraine.
Oui, ça voudra dire que la guerre pourrait avoir lieu pendant encore des années, voire décennies, parce qu'avec cette approche-là qui n'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'ils ont l'intérêt que la Russie s'affaiblisse comme ça, progressivement.
Absolument. Les Chinois ont intérêt à une Russie qui soit affaiblie, qui obéisse en quelque sorte à ses conditions, mais qui ne s'écroule pas. Ils maintiennent la Russie. Ils ont intérêt à maintenir la Russie hors de l'eau, la tête hors de l'eau. Voilà, c'est tout à fait ça. Et puis il y a une autre image que l'on peut utiliser, c'est les Chinois soutiennent la Russie comme la corde soutient le pendu. Vous voyez, c'est quand même assez cynique et assez. Mais les Russes sont complices dans cette situation parce que ils rappellent toujours, et Poutine l'a rappelé il y a encore quelques jours. Il a dit, alors rappelez-vous, les grands princes de Moscou étaient des vassaux de la Horde d'or. Puis les grands princes de Moscou allaient régulièrement voir le grand khan mongol pour leur apporter le dagne, comme on dit en russe. Mais en même temps, en échange, le grand khan de Moscou ne se mêlait pas des affaires intérieures de la grande principauté de la Russie. Et non seulement ne se mêlait pas de la religion, ne se mêlait pas de son régime politique. Poutine dit, la Chine ne se mêle pas de notre religion, de comment on est organisé à l'intérieur. Et en plus, les grands princes de Moscou, cette vassalité par rapport au grand khan, a permis à Moscou de se développer et de conquérir des territoires. Et c'était à cette époque que l'expansion de la Moscovie a commencé. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est une politique tout à fait assumée. Ce qui ne veut pas dire que la Russie, par rapport à la Chine, est un État complètement un État client. Hein. La Russie continue à revendiquer, dans des buts de propagande et de glorioles, je dirais, à revendiquer une politique globale, à agresser ses voisins, à se à se répandre en Afrique, etc. Donc, ils continuent à vouloir une politique globale de grande puissance. Ils n'ont pas les moyens de le faire, mais enfin, ils continuent à vouloir. Et ça, et tout ça, évidemment, cette situation sert directement le régime de Poutine et son maintien au pouvoir.
On parle de plus en plus ces derniers temps sur ce qu'on appelle l'axe du mal. L'expression est très ancienne, elle date du XXe siècle, mais aujourd'hui, donc, cette expression est de retour. On parle de axe du mal quand on parle de la Russie, bien sûr, aussi de l'Iran, de la Corée du Nord. Et donc, voilà, dans l'ombre, la Chine, sans avoir une position explicite, mais est-ce que, donc, si on parle de l'axe du mal, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de l'existence de cet axe du mal. Est-ce que, selon vous, déjà, la Chine fait partie de cet axe du mal, étant donné, par exemple, la position des États-Unis, qui ont désigné la Chine comme un adversaire stratégique, et donc, quelle action, ou justement, ou le contraire, c'est que voilà, la Chine ne fait pas partie pour l'instant de cet axe du mal, mais il reste une puissance économique tout à fait considérable qui est derrière, en fait, ces pays-là qui continuent à exercer leur agression, donc notamment tout à fait dernièrement, l'agression de l'Iran contre Israël, donc qui se passait il y a quelques temps seulement.
Oui. Je ne dirais, c'est difficile. Cette affaire d'axe du mal, oui, ça date effectivement également du président Bush Junior, qui avait parlé de l'axe du mal entre l'Iran, l'Irak, etc., ce qui lui a permis d'agresser l'Irak d'ailleurs. Mais je ne crois pas que la Chine fasse partie de l'axe du mal. Encore une fois, la Chine a une politique très, très pragmatique qui est prête, qui pourrait changer si les États-Unis, par exemple, font quelque chose comme Kissinger avait fait, vous savez, dans les années 70, lorsque Kissinger avait, et le président Nixon avait été voir Mao Tse-tung, et ça avait permis un peu de rompre, je dirais, il n'y avait pas d'alliance entre l'Union soviétique et la Chine à l'époque, au contraire, ils étaient en dispute, mais enfin, avait permis de rompre une espèce de front communiste, je dirais. Si les États-Unis, dans le futur, changent un peu de politique et ne mettent pas la Russie et la Chine dans un coin, par leurs sanctions, par leurs décisions un peu hostiles, ce front pourrait tout à fait changer. Ce front et la Chine pourraient cesser de soutenir la Russie. Mais ça, tout ça, comme on dit en français, ce sont évidemment des plans sur la comète. Parce que pour le moment, à Washington, ce n'est pas le cas. Et avec la possibilité que Trump revienne, se fasse réélire président, alors lui, pour le coup, il est très, très hostile à la Chine. Lui, il risque de faire l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais la Corée du Nord, en effet, comme on le sait, fournit des obus à la Russie, ce qui n'est pas forcément ce qui ne plaît pas forcément à la Chine. Hein. Encore une fois, la Chine. Mais encore une fois, la Corée du Nord est un pays vassal de la Chine, mais la Corée du Nord essaie également d'avoir sa propre politique, qui parfois peut être un peu divergente de celle de la Chine. Et la Russie, a pris un grand ascendant en Corée du Nord. Il y a eu des rencontres. Maintenant, en effet, comme je le disais, la Corée du Nord fournit du matériel militaire directement. Ce qu'on ne fait toujours pas la Chine, il faut le rappeler. Et quant à l'Iran, alors évidemment, l'Iran, alors, avec ses drones, etc., il est totalement, je dirais, inféodé à la Russie là-dessus. Et l'axe du mal, l'axe du mal, c'est un terme idéologique et politique. Ce n'est pas absolument pas une influence, une alliance. Voilà.
Oui, c'est idéologique, mais à la fois, elle met voilà, en évidence le fait que, malgré tous les problèmes, on parle du monde occidental qui valorise ce qu'on appelle la démocratie, tandis que du côté de l'axe du mal, on parle d'autocratie, de régime autocrate, et qui peuvent voilà, même bouger vers le côté totalitaire, ce qui n'est pas d'ailleurs pour l'instant le cas en Russie, mais la tendance est malheureusement qu'il y a de moins en moins de liberté dans ces sociétés russes, et donc voilà, Corée du Nord, le régime en Corée du Nord, c'est un régime totalitaire.
Oui, c'est l'extrême. La Chine n'est pas loin. Hein. La Chine n'est pas loin. Je dirais que ce n'est pas la Corée du Nord, mais en Chine, vous savez, c'est une vieille tradition chinoise de contrôler la population, etc. Même sous l'Empire, ça se faisait. Et donc, la Chine est un pays, non, peut-être pas totalitaire, mais en tout cas fortement autoritaire. La Russie, je pense, est près de la dépasser. Voilà. Donc, ces deux pays ont un effet autoritaire. C'est ce qui les lie aussi, hein, c'est ce qui les rapproche aussi. C'est l'autoritarisme. Je dirais peut-être la sympathie que Xi Jinping et Poutine entretiennent. Ils se sont rencontrés quand même plus d'une quarantaine de fois. C'est beaucoup. Hein, quarantaine de fois. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, la Russie est totalement. Bon, c'est un pays qui est en voie de vassalisation sur le plan économique, pas tout à fait encore sur le plan politique, mais la Chine a besoin de la Russie également sur le plan diplomatique. La Russie est quand même un pays membre permanent du Conseil de sécurité qui conserve une certaine puissance et une certaine influence, notamment en Asie centrale. La Chine est développe sa puissance en Asie centrale. Elle a pris l'ascendant dans le domaine économique et commercial, mais la Chine fait attention à ne pas trop bousculer la Russie en Asie centrale, parce qu'elle sait que la Russie a une vieille tradition d'influence en Asie centrale et que la Chine elle-même n'est pas très populaire, notamment au Kazakhstan, la Chine n'est pas populaire pour des raisons économiques.
Je vais vous poser la dernière question, voilà qui nous intéresse, parce que là, bon, axe du mal ou pas axe du mal, donc c'est une question voilà politique idéologique, mais en même temps on voit que le poids économique des alliances qui ne sont pas occidentales donc est en train de monter, donc la Chine bien sûr elle joue le rôle leader avec d'autres pays, avec Inde, justement ce que vous décrivez très bien dans votre livre, et donc qu'est-ce que à votre avis nous allons dans la direction du nouveau monde post-occidental, donc où la hégémonie de l'Occident pourrait être remise en question, et surtout, voilà, cette défaite dans la guerre, défaite ukrainienne, je veux dire, hypothétique, en espérant que ce ne sera pas le cas, mais la défaite de l'Ukraine dans cette guerre serait aussi la défaite de l'Occident, la défaite de l'Union européenne et des États-Unis. Est-ce qu'il y a, selon vous, une prise de conscience nécessaire pour le comprendre?
Alors, en effet, dans le Sud global, c'est important parce qu'en effet, du point de vue démographique, du point de vue économique, etc., le Sud global a pris beaucoup d'importance et je crois pèse, je sais, j'ai plus les chiffres en tête, mais pèse beaucoup plus maintenant que l'Occident. Même si l'Occident conserve quand même, notamment dans le domaine monétaire et puissance qui est quand même déterminante, mais le Sud global, en effet, devient de plus en plus important. Mais qu'est-ce que c'est que le Sud global aussi ? C'est quand même une sorte, je dirais, de collection, je dirais, un peu hétéroclite de puissance dont les intérêts sont très divergents. Il y a entre la Chine et l'Inde, par exemple. L'Inde est une des puissances montantes au sein du Sud global, qui continue à avoir de bonnes relations avec la Russie, mais qui a des relations exécrables avec la Chine et qui reste liée à l'Occident quand même. L'Inde fait partie d'une sorte d'alliance, d'une alliance informelle dans l'Asie-Pacifique contre la Chine. Fait partie de, je dirais, c'est une des pièces importantes que les États-Unis, qui font partie avec le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, font partie d'une sorte d'alliance anti-chinoise. Donc, vous voyez. Voilà, il y a également d'autres pays comme des pays africains. Alors c'est vrai que les pays africains souvent sont plutôt pro-russes, mais également ils sont pro-chinois. Et je dirais que la Chine a pris l'ascendant. Poutine et la Russie veulent jouer un rôle très important au sein du sud global, mais ils n'ont pas les moyens. La Russie, à part les ventes d'armes et je dirais l'ancien groupe paramilitaire en Afrique.
Wagner.
Voilà, c'est Wagner. Ça. La Russie n'a pas beaucoup d'influence en Afrique, à part son passé, entre guillemets, anticolonial. Vous voyez, ils sont quand même, les Russes et Poutine sont quand même gonflés de se présenter comme une puissance anticoloniale, alors que la Russie elle-même a toujours été une puissance coloniale et que la guerre qu'elle mène en Ukraine est une guerre coloniale. Hein. Il n'y a pas d'autres qualificatifs. La Russie reste une puissance coloniale qui a colonisé des peuples et des États qui existaient avant son arrivée en Sibérie, par exemple, et en Asie centrale, et dans le Caucase. Donc voilà. Et donc, le Sud global, c'est vrai que du point de vue économique et financier, économique et démographique, c'est une puissance. Et du reste, dans le Sud global, souvent, la guerre russo-ukrainienne est considérée un peu comme une affaire entre blancs, et qui sont très éloignés de leurs préoccupations. Mais le Sud global n'est absolument pas, alors pour le coup, une alliance. Hein. C'est vraiment, je vous dis, une espèce de collection de pays qui sont unis par leur volonté de ne plus être soumis à l'Occident, mais qui ont des relations très divergentes entre elles.
Mais voilà, ma dernière question quand même, que si on regarde cette situation, nous avons parlé beaucoup avec vous du point de vue géopolitique, mais si on regarde la situation du point de vue des droits de l'homme, de la place de l'homme dans les sociétés, donc on verra très, très vite que voilà, la défaite du monde démocratique serait un désastre. Et donc on peut dire ce qu'on veut, mais la démocratie reste la meilleure forme pour nous, hein, pour les gens qui sont habitués de vivre dans les conditions modernes, n'est-ce pas ?
Oui, la démocratie, effectivement, une défaite de la démocratie serait en effet un désastre, et non seulement pour les peuples européens, mais pour tous les peuples. Je pense que tous les peuples ont le droit à la démocratie, tous les peuples ont droit à une vie comment dire, libre, sans entrave, sans être mis en prison, etc. Le peuple chinois, le peuple russe, les peuples africains ont droit à ça. Et c'est seule la démocratie, je dirais, la démocratie est capable de fournir ces conditions. La démocratie a en effet beaucoup de défauts. La démocratie a quand même produit dans l'histoire des systèmes qui ont prouvé leur résilience et leur solidité. L'exemple, le plus bel exemple dans l'histoire du XXe siècle, c'est la Grande-Bretagne, qui a su entre 39 et 41, qui a su résister aux nazis, à l'Allemagne nazie, tout en conservant son système démocratique. Il ne faut pas oublier que le Parlement britannique continue à fonctionner, Churchill, qui était Premier ministre, continue à venir devant le Parlement pour exposer sa politique et défendre sa politique. Et d'ailleurs, du reste, Churchill a une très belle formule s'agissant de la démocratie, lorsqu'il dit « la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes ». Voilà, donc c'est vrai que la démocratie a un certain nombre de défauts, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes parce qu'il assure fondamentalement la liberté et la liberté de l'être humain. Voilà.
Merci beaucoup Pierre Andreux pour cet entretien. Merci beaucoup pour votre soutien à la cause ukrainienne et espérons justement que le combat pour la démocratie, ce combat global, il n'est pas terminé. Merci beaucoup.
Tout à fait. Merci à vous et à bientôt, j'espère.
Le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Pierre Andreux, diplomate, ancien ambassadeur de France au Tadjikistan et en Moldavie, spécialiste de la Russie
et de la Chine, auteur de l'ouvrage « Géopolitique des relations russo-chinoises ». Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.